Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Éclairage aujourd'hui sur une structure d'intervention des Nations Unies dans les zones des conflits, avant, pendant et après les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il s'agit de l'UNMAS, le service d'action anti-mine des Nations Unies. Agnès Marcaillou, la directrice de l'UNMAS, explique l'action de son service sur le terrain dans plusieurs pays ainsi que le rôle joué par les femmes dans le déminage. Elle évoque aussi le travail de ramassage, de stockage ou de destruction des engins non explosés. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. Agnès Marcaillou commence par évoquer le rôle du service de l'action antimine des Nations Unies pour la paix et la stabilisation dans les régions qui sont ou qui ont été les théâtres de conflits armés.
Il n'y a pas de paix, de stabilisation, de retour à la normale tant que les terrains sont contaminés, que ce soit par des mines, que ce soit par des munitions non explosées, que ce soit par des stocks qui sont en danger d'explosion ou de pillage. Il n'y a pas de stabilisation tant que les gens ont peur. La perception est aussi importante que la réalité. Donc nous faisons partie des casques bleus, nous faisons partie du personnel humanitaire, nous sommes vraiment une composante importante de toutes les opérations des Nations Unies, qu'elles soient des missions politiques, des missions de maintien de la paix, des missions de construction de la paix, consolidation, puisque nous nous déployons en premier, avant que tout le monde n'arrive. Il est essentiel, évidemment, que les gens qui soient déployés, que ce soit des humanitaires ou que ce soit des casques bleus, comme nous les célébrons cette semaine, il est essentiel qu'ils sachent de quoi ils retournent, quelle est la menace à laquelle ils font face et que les forces civiles et militaires soient déployées en toute sécurité.
Alors, comment est-ce que vous vous définissez sur le terrain? Vous êtes humanitaire ou militaire?
Ah, alors nous soutenons le déploiement des militaires, nous les aidons dans les terrains comme le Mali, des terrains comme la Libye, ça c'est une opération politique. On va revenir au Mali parce que ça c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, la RDC aussi. Nous sommes là en soutien à la mission. Et ce que nous faisons va depuis la dépollution des terres, les opérations de dépollution, qu'on ne dépollue pas toujours d'ailleurs. Quelquefois, nous marquons les endroits qui sont dangereux et nous faisons en sorte qu'on les évite. Que ça soit la formation des troupes, nous occupons de plus en plus de la formation des troupes parce que la menace a évolué et que l'ONU répond à l'évolution du monde. Dans les années 90, il s'agissait des mines. Aujourd'hui, malheureusement, il s'agit de plus en plus de munitions non explosées. On va dire que grosso modo, entre 15 et 30% des mortiers, des grenades, des bombes qui sont larguées vont pas exploser sous impact et elles vont finir par tuer ceux qui viendront après. Et nous sommes aussi très très occupés, très en demande en ce moment en ce qui concerne les engins explosifs improvisés.
Je voudrais un peu que vous puissiez situer votre place aux Nations Unies par rapport aux différents départements. Vous êtes sous tutelle de quelle agence onusienne?
Nous sommes accueillis, je dirais, nous sommes au département des opérations de maintien de la paix. C'est un service qui, à sa création, était au département des affaires humanitaires. Alors vous voyez, l'Assemblée générale l'a créé à un endroit, l'a bougé à un autre. Nous sommes aux confins de l'humanitaire et du maintien de la paix. Parce que finalement, ce que nous faisons, c'est fournir un service très très spécialisé, avec des équipements très spécialisés sur tout ce qui explose. Je dis, c'est tout ce qui fait bang dont nous nous occupons.
Alors, sur le terrain, vous êtes présent dans quel pays? Je sais qu'il y a plusieurs opérations des Nations Unies de maintien de la paix, entre autres, dans plusieurs pays. Est-ce que vous accompagnez systématiquement ces opérations?
Nous sommes dans 18 endroits. Nous sommes là où le Conseil de sécurité envoie l'ONU. Donc là, nous faisons partie de la mission.
Donc vous êtes des accompagnateurs?
Nous sommes des accompagnateurs. Accompagnateurs, je dirais, nous sommes des précurseurs. Parce qu'en fait, vous ne sortez pas de votre jeep ou vous ne descendez pas de votre hélicoptère tant que quelqu'un ne vous a pas dit que finalement le sol est propre. Ça va de soi, c'est du bon sens. Donc nous sommes en première réponse sur les opérations du Conseil de sécurité. Donc, toutes les opérations, il y en a 11 dans lesquelles nous sommes, Conseil de sécurité, que ce soit maintien de la paix ou politique. Alors, on a l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, Chypre, la RDC, le Liban, la Libye. Nous sommes au Sud-Soudan, nous sommes au Darfour, nous sommes à Abyei, nous sommes au Sahara occidental, là où on organise des élections, voilà, on supervise les élections. Mais nous sommes aussi en Colombie. Nous sommes allés à Brazzaville au moment où le dépôt de munitions a explosé il y a un an et a tué 282 personnes en une nuit. Une déflagration extraordinaire. Les vitres à Kinshasa, de l'autre côté de la rivière, ont explosé. Et nous sommes déployés en 17-20 heures. On était les premiers sur le terrain à coordonner l'action humanitaire, l'action militaire. On a fait en sorte que les populations soient protégées. Où est-ce que nous sommes ? Nous sommes en Palestine, ça c'est important. Nous sommes en Somalie. Nous étions en Syrie et nous retournerons en Syrie dès que les mandats nous le permettent.
Étude de cas maintenant, prenons la situation au Mali dont on parle beaucoup actuellement. Agnès Marcaillou, est-ce que l'UNMAS est présent dans ce pays ?
On était là avant les autres.
Vous étiez là avant que l'ONU crée la mission, la nouvelle mission pour le Mali ?
Absolument. Nous étions là un peu plus tôt à la demande de la communauté humanitaire parce que nous avons aussi un mandat de coordination des humanitaires quand il s'agit donc de ce qu'on appelle la lutte anti-mine, hein, qui couvre tout ce que j'ai expliqué, pas simplement les mines.
Et qu'est-ce que vous faites au Mali ? Vous étiez là pour faire quoi ? Et qu'est-ce que vous y faites actuellement si vous êtes encore là ?
Alors, au Mali, nous sommes arrivés pour voir de quoi il retournait, quelle était la situation. Il y avait des enfants qui étaient blessés et qui mouraient sur des engins non explosés. Et nous étions là pour faciliter l'action des ONG humanitaires et du personnel ONU humanitaire. Donc on fait aussi leur formation. L'éducation au risque des mines ou au risque des engins explosifs, c'est quelque chose que nous faisons dans les villages au niveau des communautés ou en direct ou par le biais d'ONG locales ou internationales. C'est nous qui levons les fonds et qui les finançons et qui permettons leur action. Et nous faisons aussi la formation du personnel ONU qui ensuite sera déployé. Donc nous étions là avant que la mission se mette en place. Quand la mission s'est mise en place, nous avions visiblement déjà une bonne connaissance du terrain, ce qui était un très grand avantage pour la composante mission qui a été envoyée par le Conseil de sécurité. Et là, nous nous scindons, je dirais, il y a deux branches. Il y a la branche qui reste dans l'humanitaire et il y a la branche qui va soutenir la mission et qui fait de la formation des troupes. Alors, par exemple, pour les troupes qui seront déployées au Mali, on a une formation de connaissances, de recueil de l'information, de quoi faire quand vous voyez quoi. Nous faisons du recueil d'informations, ce n'est pas du renseignement, mais c'est simplement rentrer dans une base de données que nous avons inventée et qui est accessible à tous. Nous mettons toutes les données de tout ce que nous rencontrons comme engin explosif et de ce que les autres rencontrent. Nous mettons ça à disposition et nous formons aussi les déploiements qui seront exposés donc à ces attaques suicides en tout genre.
Donc vos agents sont, j'imagine, présents dans les villes seulement, par exemple à Bamako ou certaines villes, parce qu'il y a aussi l'aspect sécuritaire. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites, vous, quand vous venez de dire que vous étiez là avant que l'ONU n'arrive, comment est-ce que vous étiez en train de gérer cet aspect sécuritaire alors qu'il y a ces mouvements islamistes un peu partout dans le nord du Mali, par exemple Est-ce que vous êtes présent dans le nord du Mali aussi ?
Alors, on y est allé, on ira, et quand vous entendez que l'ONU va aller s'installer dans telle zone ou telle zone du Mali, bah gardez à l'esprit qu'on sera probablement les premiers à y aller. Avec les troupes, ils sont déjà allés, il y a eu des interventions avant que l'ONU n'arrive, mais nous sommes là en soutien.
On remarque de plus en plus la présence des femmes dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, principalement dans la police onusienne. Avez-vous un programme particulier de formation de ces femmes casques bleus ?
Alors, je vais vous donner une belle histoire, là, qui est une belle histoire du Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, 30% du personnel de déminage sont des femmes. Ce sont des Sud-Soudanaises. Et la belle histoire que je raconte souvent...
Vous les exposez ?
Pas du tout. On ne les expose pas plus qu'on va exposer les civils. Quand on fait bien son travail, on n'a pas envie que son collègue meure, vous savez. Que ça soit un homme, que ça soit un local ou un international, ils sont formés aux normes pour garder des vies. C'est ça notre travail. Non, non, on ne les expose pas. En fait, au Sud-Soudan, non seulement on les a formés, mais la grosse machine à déminer qui s'appelle la Mine Wolf, qui coûte 3 millions d'euros, hein, c'est une grosse machine qui est assez complexe, et bien maintenant, elle est conduite, opérée, par une femme du Sud-Soudan qui a commencé dans le cadre de la mission de l'ONU comme cuisinière. Elle faisait à manger pour les troupes, une jeune femme qui nous a regardé travailler, qui s'est intéressée, qui nous a dit bon, « je voudrais bien savoir comment ça marche ». Et on lui a arrangé ses heures de travail pour qu'elle puisse finalement bénéficier de la formation. Et bien maintenant, c'est elle qui conduit cette énorme machine. Et on a deux de ses collègues qui sont en train de suivre. Donc on aura bientôt trois femmes qui opéreront ces machines, en plus des démineuses. En ce qui concerne la culture locale, nous avons fait un survol, hein, un bilan. On a passé un questionnaire au Sahara occidental, au milieu des communautés, en disant « qu'est-ce que vous pensez des femmes qui travaillent dans le déminage ?» Et en fait, la majorité des hommes, donc ça c'est vraiment les questionnaires anonymes sur papier, la majorité des hommes ont dit que leur perception des femmes qui étaient leurs voisines de même communauté avait totalement changé parce que maintenant ces femmes avaient finalement la responsabilité de la sécurité de la communauté. Bon, c'est pas du féminisme, c'est simplement faire avancer les choses avec les gens qu'on a et faire en sorte que les communautés évoluent.
J'ai vu quelque part que vous avez une stratégie qui couvre la période 2013-2018. Alors, en quelques mots, quels sont les grands traits de cette stratégie? Quels sont les objectifs principaux?
UNMAS a coordonné la stratégie des Nations Unies. Donc, c'est la stratégie qui doit être suivie par les 14 agences et fonds, programmes, toutes les entités onusiennes qui s'intéressent à la lutte anti-mine. Cette stratégie a quatre objectifs majeurs. Nous avons décidé que de 2013 à 2018, nous nous focaliserons essentiellement sur 1. La réduction du nombre de victimes. C'est l'objectif essentiel de la lutte anti-mine. La deuxième chose, c'est l'assistance aux victimes. Nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que l'assistance aux victimes n'avait pas l'importance qu'elle méritait. Donc là, il y a un recentrage là-dessus. Le troisième objectif, c'est le renforcement des capacités locales. Et il est essentiel que nous passions le message au gouvernement et à la communauté internationale que dans la lutte anti-mine, je vais parler pour mon bureau n'arrive pas dans un pays pour y passer 50 ans. On arrive là pour former le gouvernement local, les autorités locales, les ONG locales, jusqu'au moment où ils n'auront plus besoin de nous. Et le quatrième objectif qui m'est très cher aussi, c'est de remettre la question de la lutte anti-mine à l'ordre du jour international. On oublie complètement cet aspect des choses et il est temps que les États du Conseil de sécurité, mais aussi les autres et les États qui sont affectés, se souviennent de l'importance que la lutte anti-mine revêt, qui comprennent que la lutte anti-mine n'est pas limitée aux mines antipersonnelles, que c'est vraiment tout ce qui explose et qui fait des victimes et qui empêche un pays de décoller économiquement, qui empêche un pays de se stabiliser. Donc c'est vraiment remettre ça dans le cadre de l'ONU. Mon idéal, c'est que chaque fois que l'ONU se réunira pour discuter d'un sujet de décollement économique, de stabilisation ou de paix et de sécurité, qu'on n'oublie pas que la lutte anti-mine est au cœur de tout ça.
C'est sur cette note que s'achève Escale avec notre invitée Agnès Marcaillou, la directrice de l'UNMAS, le service de l'action anti-mine des Nations Unies, sur le rôle de l'UNMAS pour la paix et la stabilisation dans les régions affectées par des conflits armés. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Peter Kurisko. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.